comment la vie est-elle apparue sur Terre?
On peut envoyer actuellement des signaux à 100 millions de kilomètres.
Les scientifiques repoussent encore les limites du possible.
Il n'y a rien qui soit pérenne dans le temps. Tout est d'ordre chaotique, mais ça peut être des chaos sur des échelles de temps de l'année, du million d'années, du milliard d'années. Ce qui compte, c'est le temps qu'il faut pour que les choses dérivent.
Tout ce qu'ils veulent, c'est faire des chiffres. Ils n'ont rien à foutre qu'on détruise le fond des océans.
So, I had an idea.
Le siècle des ampoules.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du siècle des ampoules. Le 26 octobre 2023 paraissait dans la revue Nature un article proposant un nouveau modèle sur la structure interne de Mars grâce aux données récoltées par la mission franco-américaine InSight, des données récoltées directement depuis la planète rouge. Mais que sait-on au juste de cette structure interne? Pourquoi est-ce que c'est important d'en savoir plus sur l'organisation des différentes couches géologiques de Mars et comment l'étudie-t-on? Autant de questions que nous allons parcourir avec notre invité du jour, Henri Samuel. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
Merci à vous.
Henri Samuel, vous êtes géodynamicien à l'Institut de physique du globe de Paris et vous êtes l'auteur principal de cette étude parue dans la revue Nature. Alors depuis 2018, cette sonde American Insight étudie notamment l'activité sismique de Mars grâce à un sismomètre de construction française. La mission a pris fin en 2022, mais beaucoup de ces données restent encore à être analysées. Alors, Henri Samuel, pour commencer cette émission, finalement, que savions-nous de Mars et de sa structure interne avant d'initier cette mission in situ? Est-ce que vous pouvez nous dresser une carte d'identité de Mars, hein, telle qu'on l'avait identifiée?
Alors avant, en amont de la mission, on avait déjà une idée de la structure de Mars, qui est celle d'une planète tellurique différenciée, à savoir qu'elle a une structure qui ressemble un peu à celle d'un œuf, avec en surface, proche de la surface, donc une croûte, au centre un noyau métallique liquide, et entre les deux ce qu'on appelle le manteau terrestre, qui est constitué essentiellement de roches silicatées, dont on pensait qu'elles étaient essentiellement à l'état solide.
Et comment est-ce qu'on avait estimé, identifié l'organisation de ces différentes couches géologiques?
Alors, grâce à des observations, notamment des observations satellitaires géodésiques, qui nous permettent de déterminer en fait les réponses gravitationnelles de la planète à des sollicitations gravitationnelles de ces satellites, et cette réaction nous donne une idée de la structure interne de Mars, telle que je vous l'ai décrite, avec justement ces différentes couches, dont une couche liquide au centre, qui est le noyau.
Alors, les données récoltées par la mission InSight sont venues un peu bousculer notre vision de la structure interne de Mars. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer comment a été imaginée cette mission InSight? Quels outils ont été emmenés pour réaliser ces études? C'est les mêmes finalement qu'on utilise sur Terre pour sonder l'intérieur de notre planète?
Alors, en gros, oui, mais comme on n'avait qu'une seule opportunité de déployer ces instruments, donc il a fallu faire avec un nombre d'instruments assez limité. La sonde InSight, elle embarquait avec elle un certain nombre d'instruments qui étaient l'instrument principal pour ce qui concerne le sondage de la structure interne, c'était le sismomètre de fabrication française que vous avez mentionné, le sismomètre SAIS. Qui permet donc d'enregistrer des secousses sismiques qui se propagent à l'intérieur de la planète. On avait aussi un autre instrument qui s'appelait HP-Cube, qui était une sonde qui était censée s'enfoncer à plusieurs mètres à l'intérieur sous la surface de Mars, et qui aurait permis de mesurer le flux de chaleur, c'est-à-dire la quantité de chaleur qui s'échappe de la planète, qui donne une idée du refroidissement de cette planète et de la structure thermique à faible profondeur. Malheureusement, cette expérience-là a été un échec, car cette sonde n'a pas pu s'enfoncer au-delà d'une dizaine de centimètres. En d'autres termes, elle est restée à la surface coincée. Donc cette expérience n'a pas pu être concluante pour mesurer le flux de chaleur en surface. Et il y avait aussi un magnétomètre qui a permis de mesurer le champ magnétique à la surface de Mars, et une antenne RISE qui nous permet aussi de déterminer par des mesures géodésiques que j'ai évoquées aussi précédemment, la structure interne de Mars.
Alors les résultats de votre étude se basent sur les données sismiques enregistrées grâce à ce sismomètre dont on vient de parler et se basent notamment sur une donnée sismique bien particulière, c'est celle qui a fait suite à un impact de météorite survenu en septembre 2021 sur Mars. Alors ce séisme est venu mettre en évidence une anomalie dans la structure interne de Mars. Quelle était cette anomalie ?
Alors oui, c'est comme vous l'avez bien précisé, en fait, c'était la particularité de cet événement sismique, c'est qu'il a été généré par un impact, et un impact qui était localisé à une distance assez lointaine du sismomètre InSight. Et ça, ça bouleversait un peu notre vision de la structure de Mars pour deux raisons. D'une part, parce que grâce à un impact, on sait exactement localiser la source du séisme, ce qui n'est pas forcément évident quand on a des séismes sur Mars qui sont produits par des fractures qui ne sont pas forcément liées par des impacts. Donc on ne sait pas forcément les localiser précisément avec un seul sismomètre. Et d'autre part, le fait que la source de ce séisme était localisée à une distance très lointaine par rapport aux autres événements sismiques qui avaient été enregistrés sur Mars, nous a permis de sonder des profondeurs du manteau martien qui n'avaient pas été échantillonnées auparavant par des ondes sismiques qu'on avait enregistrées. Et l'anomalie dont vous parlez, cette anomalie que ça a permis de mettre en évidence, c'est que cet impact a généré ce qu'on appelle des ondes de compression diffractées, c'est-à-dire des ondes qui vont se propager en bas du manteau solide de Mars et qui vont raser, si vous voulez, la partie la plus profonde du manteau solide de Mars avant de revenir vers la surface. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que le temps de propagation de ces ondes P diffractées était anormalement lent, c'est-à-dire que si on essayait de l'expliquer avec une structure martienne avec un manteau qui était complètement solide, on devrait avoir des temps de propagation beaucoup plus courts. Et on n'arrivait pas à réconcilier cette observation avec des modèles de structure de Mars pour lesquels le manteau était complètement solide. Et ça nous a amené à reconsidérer notre vision de la structure du manteau martien comme étant stratifiée et non plus homogène. C'est-à-dire qu'on avait une partie plus superficielle, mais la majeure partie du manteau martien qui serait complètement solide, et une partie inférieure, la plus profonde, d'épaisseur plus faible, qui serait fondue. Et lorsque ces ondes diffractées se propagent dans un milieu liquide, les vitesses sismiques sont beaucoup plus lentes par rapport à un milieu solide, et donc ça permet de ralentir le temps de propagation de ces ondes sismiques. Et c'est comme ça qu'on arrive à expliquer les temps de propagation qui ont été mesurés pour cet événement particulier.
Donc cette observation a permis d'affiner notre compréhension du manteau martien, mais également celle de son noyau.
Oui, vous avez raison, les deux sont liés en fait, parce que d'une part, pour avoir cette couche fondue à la base du manteau, il faut pouvoir, une manière de l'expliquer, c'est d'avoir justement cette couche qui est la partie inférieure du manteau qui est enrichie en éléments radioactifs qui produisent de la chaleur, et qui produisent tellement de chaleur que cette couche est tellement chaude qu'elle fond. Donc ça, c'est une première chose. Et d'autre part, cette interface solide-liquide avait été interprétée comme la limite noyau-manteau, alors qu'en réalité, elle correspondait à une interface qui était située à l'intérieur du manteau lui-même. Et donc ça implique que la taille du noyau qui avait été précédemment déterminée par ces réflexions d'ondes de cisaillement, qui ne se produisaient pas en réalité à la limite noyau-manteau, a dû être révisée à la baisse, et donc on avait un noyau finalement qui était en volume 30% plus petit que ce qui avait été précédemment interprété à la lumière des observations sismiques de l'époque. Et le fait que le noyau soit révisé, la taille du noyau soit révisée à la baisse implique que sa densité C'est-à-dire, oui, ça implique que les composants, la composition du noyau implique une densité plus importante pour, en quelque sorte, conserver la masse totale de la planète dont on a des contraintes. Et donc, ça implique que la teneur du noyau, dont on pense qu'il est constitué essentiellement de fer, mais aussi d'éléments légers, et cette teneur en éléments légers doit être plus faible pour permettre d'expliquer cette densité plus élevée, ce qui était auparavant un problème, parce qu'en fait on avait avec un noyau relativement grand, on devait incorporer des quantités importantes d'éléments légers au-delà de ce qui était possible d'après les contraintes qui provenaient des expériences à haute pression et haute température qui nous permettent de déterminer la quantité d'éléments légers que le noyau peut incorporer. Et donc en révisant la taille du noyau à la baisse, on a pu, expliquer réduire cette surabondance d'éléments légers à des quantités qui étaient plus raisonnables.
Et alors le fait de revoir cette organisation du manteau interne, c'est qu'il y a une stratification donc du manteau qui isole en fait le noyau métallique, pose également des questions sur les traces de champs magnétiques qui sont enregistrées dans la croûte martienne.
Tout à fait. Donc le fait qu'on a une couche fondue au-dessus, entre le manteau solide et le noyau liquide, a des implications sur l'évolution de Mars. En fait, quelques années avant même la détection de ces ondes pédifractées, avec mes collègues, on avait publié une étude théorique où on regardait cette possibilité et on s'est aperçu que avoir cette stratification du manteau martien pouvait influencer énormément l'évolution à long terme de Mars et la structure actuelle de Mars, et donc l'interprétation de toutes les données disponibles. Et en particulier, le fait qu'on ait cette stratification dans le manteau implique que, avec une couche qui est très chaude, implique que le noyau est recouvert d'une couche très chaude qui l'empêche de se refroidir et qui va même, dans une certaine mesure, le réchauffer. Et dans ces conditions-là, on ne peut pas générer ce qu'on appelle une dynamo, un champ magnétique qui est créé par des mouvements convectifs liés à des différences de température dans le noyau, puisque le noyau ne peut pas se refroidir. Donc il a fallu, ça pose des questions par rapport au fait que sur Mars, on a dans la croûte des enregistrements en quelque sorte qui attestent de la présence d'un champ magnétique durant les 500 à 800 premiers millions d'années après la formation de Mars. Et donc c'est ce champ magnétique, il faut pouvoir l'expliquer par autre chose qu'un refroidissement du noyau. Et donc on a... ça nous a amené à proposer différents scénarios, différentes possibilités pour générer ce champ magnétique transitoire, notamment par exemple la présence d'anciens satellites qui orbiteraient autour de la planète Mars et qui généreraient des interactions gravitationnelles avec le noyau, qui pourrait générer des mouvements convectifs dans le noyau alors même qu'il ne peut pas se refroidir, et ainsi produirait un champ magnétique transitoire qui pourrait correspondre à ce qui a été observé et enregistré dans la croûte martienne.
Et en comparaison à la Terre, comment se différencie Mars dans sa structure interne? Qu'est-ce que cela nous dit de leur histoire, et est-ce qu'on sait ce qui aussi dans l'histoire les ont différenciés?
Alors effectivement, dans les grandes lignes, c'est la Terre et Mars sont des planètes différenciées, donc ils ont toujours cette structure un peu en œuf dont je vous ai parlé. La grosse différence entre Mars et la Terre pour ce qui concerne sa structure profonde, c'est que sur Terre, il n'y a pas de cette stratification globale autour du noyau terrestre n'existe pas. On a des indications comme quoi il y a des hétérogénéités dans le manteau martien, mais pas sous la forme d'une couche complètement stratifiée et homogène. Donc ça c'est une différence importante, et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle sur Terre on a toujours un champ magnétique terrestre actif, alors que sur Mars aujourd'hui il n'y a plus de dynamo actif. Et l'autre différence importante entre la Terre et Mars, c'est que, et ça c'est une spécificité de la Terre, c'est que sur la Terre, on a aussi actuellement une tectonique des plaques active, alors que sur Mars, on a ce qu'on appelle un lit stagnant, c'est-à-dire que on n'a qu'une seule plaque en fait sur Mars, et on n'a pas de zone de subduction comme on peut avoir sur Terre. Donc ça, c'est une différence importante. Pourquoi est-ce que Mars et la Terre auraient évolué différemment? Alors, il y a plusieurs raisons pour expliquer ça, mais le problème est encore loin d'être tranché. Il est possible que la taille de Mars joue aussi sur son évolution. Donc,
elle est deux fois plus petite, hein.
Elle est plus petite, donc elle a une gravité plus petite. Quand on a une gravité plus petite, c'est plus difficile aussi de générer des mouvements convectifs, de casser en fait la surface plus rigide et plus visqueuse de la planète. Ça pourrait expliquer, ça pourrait être la raison pour laquelle sur Mars on n'a pas de tectonique des plaques, alors que sur Terre on en a une. Ça pourrait aussi expliquer pourquoi cette couche sur Mars est restée préservée, puisqu'on aurait des mouvements convectifs qui sont moins vigoureux et donc qui sont moins prompts à, en quelque sorte, éroder cette couche, alors que sur Terre, les mouvements convectifs plus vigoureux pourraient la mélanger avec le manteau solide.
Alors nous sommes de retour avec Henri Samuel pour évoquer ses recherches sur la structuration interne de la planète Mars. Alors des études qui ont notamment été possibles grâce à l'étude sismique de la planète par l'envoi de la sonde InSight équipée entre autres d'un sismomètre. Alors vous l'avez mentionné un peu plus tôt Henri Samuel, sur Mars il n'y a pas de tectonique des plaques. La tectonique des plaques qui est sur Terre responsable en partie de l'activité sismique. Est-ce qu'on sait quelles sont les origines des activités sismiques sur Mars? Alors une activité sismique d'ailleurs qui s'est révélée plus importante qu'on l'avait prédit.
Oui et non, par rapport à l'activité sismique de Mars. En fait, Alors sur Mars, donc il y a deux sources principales de séismes, peut-être trois, mais deux sources principales. La première, ce sont donc les impacts qu'on a évoqués tout à l'heure. L'autre source, ce sont des failles qui se créent à relativement faible profondeur, qui sont liées au fait que la planète se refroidit. Donc ça crée de la tension, des contraintes qui, au bout d'un moment, finissent par fragiliser la lithosphère martienne et la croûte martienne, et qui génèrent de temps en temps des tremblements martiens. Par contre, pour ce qui est de l'activité martienne, donc en fait, ça c'est une surprise aussi de la mission InSight, c'est qu'on s'attendait quand même à avoir des événements sismiques de magnitude relativement importante. Et en fait, il a fallu attendre plusieurs années pour pouvoir en détecter un. En fait, l'événement dont la magnitude est la plus forte est un événement qui est survenu en toute fin de mission. En 2022, et puis il a généré des signaux sismiques avec une magnitude de 4.7, alors qu'on s'attendait à avoir des signaux sismiques, des enregistrements sismiques supérieurs à 5, en tout cas plus qu'un seul. Donc ça fait partie des choses, on avait des a priori sur la sismicité martienne qui ont en partie été vérifiées, et d'une autre part pour lesquelles on a eu quelques surprises, mais qui nous ont aussi appris des choses sur l'évolution de la planète et aussi sur sa structure actuelle.
Alors cette mission, elle est bien évidemment tournée vers Mars, c'est la compréhension de l'histoire et de l'évolution de Mars, mais c'est aussi peut-être finalement aussi un moyen d'en savoir plus sur une autre planète tellurique, car la seule étudiée à ce jour, c'était la Terre finalement.
Alors oui, c'est Mars avec la Lune et la Terre sont les trois objets, parce que la Lune n'est pas vraiment une planète, sur lesquels on a déployé des sismomètres ou un sismomètre. Et donc, effectivement, c'est le principe de la planétologie comparée, c'était de regarder ce qui se passe sur d'autres planètes. J'ai emprunté une analogie que Philippe Lenionnet, qui est le PI, l'investigateur principal de l'instrument SACE, utilise souvent. Quand on a juste un point, par exemple la Terre, on peut faire passer une infinité de droites, mais quand on en a deux, on n'en fait passer qu'une seule. Donc étudier d'autres planètes différentes de la nôtre, ça peut nous donner des informations sur l'évolution de notre propre planète, et donc les différences et les similitudes nous renseignent aussi sur l'évolution de notre propre planète.
Et en ce qui concerne la Terre, est-ce qu'on a une idée justement d'où provient cette tectonique des plaques qui n'est pas présente sur Mars ?
Ah non, ça reste encore matière à débat, mais en fait même sur Mars, il est possible qu'il y ait eu un épisode dont la durée reste à déterminer, un court épisode de tectonique des plaques. Ce qui est assez frappant quand on regarde la Terre et Mars, c'est que quand on remonte en arrière, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de similitudes, à savoir qu'on avait peut-être une tectonique des plaques aussi sur Mars, un champ magnétique certainement sur Mars et sur la Terre, on avait de l'eau et une atmosphère sur Mars, donc la planète Mars était beaucoup plus similaire à la Terre auparavant, et à un moment donné, quelque chose s'est passé et ces deux planètes ont d'une certaine manière divergé. Donc ça reste encore des choses qu'il faut explorer, peut-être du côté de la taille que j'ai évoquée, mais il y a peut-être aussi d'autres raisons qui peuvent expliquer ces différences. Peut-être la composition de Mars et de la Terre, qui n'est pas exactement la même, peut aussi générer ces différences. Et c'est toutes ces questions qui restent encore à creuser et à élucider dans les années et les décennies à venir.
Et quelles sont encore les questions qui entourent Mars et que l'on espère pouvoir éclaircir avec les données qu'il reste à analyser de la sonde InSight ?
Alors, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a à peu près 4 ans de données qui ont été enregistrées sur Mars. Et donc, avec cette nouvelle structure qui a été mise en évidence, ce qu'il faut, la chose qui reste à faire, c'est de revenir sur toutes ces données, ces 4 ans de données, et les réinterpréter, parce que en fait, c'est une question de réinterprétation en fait, pour voir si justement, à la lumière de cette nouvelle structure, est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui nous ont échappé dans les enregistrements sismiques. On a énormément d'enregistrements de sismogrammes martiens. On n'est toujours pas capable, et c'est la même chose sur Terre, d'expliquer l'origine de chacun de chacune de ces traces sismiques qui sont enregistrées. Mais peut-être justement, à la lumière de cette nouvelle structure, on pourra détecter des ondes et des phases sismiques qu'on n'avait pas précédemment considérées, qui vont peut-être nous permettre d'affiner la structure sismique actuelle de Mars, et par la même occasion de reconstruire son histoire thermique et chimique sur plusieurs milliards d'années.
Alors on l'a brièvement mentionné, mais finalement, quelles sont encore les grandes questions qui entourent la Terre pour un géodynamicien ?
Les grandes questions qui entourent l'histoire de la Terre, vous l'avez évoqué, je pense, assez bien. Quelle est l'origine? Pourquoi est-ce que la Terre est à ce jour la seule planète que l'on connaisse qui a une tectonique des plaques active? Ça reste quelque chose d'assez... c'est une exception qu'on a encore du mal à expliquer, parce que Mars, on a une planète Mars qui est plus petite, donc on peut toujours évoquer la différence de taille, mais on a des planètes qui, comme Vénus, qui ont des tailles similaires à la Terre, mais pour lesquelles il n'y a pas de tectonique de plaques. Donc ça reste des choses qu'il faut aussi expliquer, toujours en comparant avec d'autres objets similaires ou même différents.
Merci beaucoup, Henri Samuel.
Merci à vous.
Alors je rappelle, vous êtes géodynamicien à l'Institut de physique du globe de Paris, et vous êtes l'auteur principal d'une étude qui est parue dans la revue Nature en octobre 2023 sur la structure interne de Mars. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le lien du podcast sur radio.be ou radio.fr. Encore merci. Olé, olé. Tied and beat. Tried and held and led us 15 feet. Out on the beach beside an ocean. Oh, it's me a crying baby, bouncing on my knee in a little grass shack built for three. Out on a deck.